Faut que t'as sentimental, tu perds ton JavaScript. Repense à tous ces projets sans TypeScript. Faut que t'as sentimental, bientôt les jouets du strict. Enfin le code legacy qu'on ne maintient plus. Allez, on remet l'intro. Vous l'avez peut-être deviné, mais dans cet épisode de Full Stack Sentimental, on va parler de TypeScript. On parle de TypeScript en ce moment parce qu'il y a une annonce qui a été faite de réécrire TypeScript dans un autre langage. On y reviendra un tout petit peu après. TypeScript, c'est un langage qui a été créé par, je vais lire parce que je ne sais pas prononcer son nom, Anders Elsberg. C'est un monsieur qui a un historique assez conséquent dans le monde des langages de programmation parce qu'il a écrit Pascal, qui est devenu ensuite Turbo Pascal. Il a participé à Delphi, il a participé à C Sharp et depuis quelques années TypeScript. TypeScript, c'est un langage de programmation développé par Microsoft, donc principalement au départ par ce monsieur-là et toute son équipe. Et la communauté, parce que c'est open source. Wikipédia indique que la date de première version est le 9 février 2012. Alors j'avoue que moi, je ne pensais pas que ce serait si vieux. Et la progression de TypeScript, elle est assez impressionnante. Alors je ne vais pas parler de l'historique, puisque vous pouvez aller sur Wikipédia pour voir ça. En 2016, j'ai donné une présentation avec un ami qu'on appellera Rominou à Devox France à propos des frameworks JavaScript. Et en même temps, dans cette conférence, il y avait deux présentations sur JavaScript, sur TypeScript, pardon. Donc on était avec quelques amis, Florian et Rominou, si j'ai bonne mémoire. Et on sort de cette présentation sur TypeScript et on se dit, mais c'est pas possible, on a toujours cette blague que entre Java et JavaScript, comme quoi c'est un peu la même chose, alors qu'en fait non, et avec TypeScript, on a l'impression qu'on se rapproche de c'est la même chose. Et ça nous a un peu choqués, et en face on avait des copains qui eux faisaient du Java et qui étaient là, mais non, mais c'est génial, c'est vers ça qu'il faut aller, etc. Alors le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est un point qui historiquement a été très important et j'ai l'impression que maintenant il est moins mis en avant. C'est le fait qu'au départ, TypeScript s'annonçait comme un surensemble de JavaScript. Donc en JavaScript, on a les différentes versions qui sont basées sur les standards ECMAScript. Une des grosses évolutions, ça a été en 2015 avec ECMAScript 6, qui a apporté plein de choses, les promesses, les classes, etc. Et au moment où moi je vois cette présentation en 2016, où TypeScript se présente et est présenté comme un surensemble de JavaScript, à ce moment-là, TypeScript ne supporte pas 100% de la spécification ECMAScript et donc ne supporte pas 100% de ce qui est présent dans JavaScript. Pour moi, c'est un gros problème parce que cette chose qui est représentée comme un peu que du bonus sur tout ce qu'on peut faire en JavaScript, en fait, elle était fausse. Ça a un peu changé, bien sûr, ça a beaucoup évolué et heureusement. Et maintenant, quand j'arrive sur la page d'accueil, je ne vois plus ce côté superset. Donc je pense que ça a un peu disparu et c'est une très bonne chose. Ensuite, le truc qui me faisait un peu peur, c'est le fait que ce ne soit pas un standard. Parce que JavaScript, même s'il y a des variantes un petit peu en fonction des implémentations dans les navigateurs ou alors dans les, dans la façon dont ça tourne sur du serveur avec du Node ou avec du Deno, etc. JavaScript, c'est quand même basé sur un standard. Et moi, j'aime bien ce côté standard. Par exemple, le langage C, c'est standardisé. Du coup, JavaScript, via le standard ECMAScript, c'est standardisé. Et TypeScript, eux, ils mettent leur truc en plus par-dessus et c'est dirigé par Microsoft, donc une grosse boîte. Et si on suit un peu les exemples de l'évolution du web avec les grosses boîtes qui poussent les choses dans une direction pour leurs besoins. Je pense à Apple avec certaines choses développées dans Safari ou à Google avec certaines choses développées dans Chrome. Cet exemple qu'on retrouve du coup dans TypeScript, moi, ça m'a fait vraiment très très peur, quoi. Il y a une chose que aussi j'ai trouvé très très curieuse dans ma vie de développeur qui a commencé à s'intéresser un peu à TypeScript parce qu'il faut, entre guillemets. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent ça, parce que ça peut aider dans certains cas, je vais y revenir après. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disaient, je code pas en JavaScript, je fais que du TypeScript. Et quand on posait des questions sur les choses en JavaScript, qui étaient un peu perdues, quand ils sortaient du modèle un peu qui ressemble à du Java ou à du C-Sharp avec des interfaces, etc. Ils étaient un peu perdus et ils ne comprenaient pas comment fonctionne le modèle JavaScript derrière. Et ça, c'était un vrai problème parce que ces personnes-là ne savaient pas vers quoi leur code allait. Alors, on peut redécaler ça. Hein. En JavaScript, on fait des choses, mais c'est recompilé sur une machine virtuelle, etc. Donc, on ne sait jamais vraiment jusqu'où va le code plus loin. Mais ce manque de considération de JavaScript, pour moi, c'était vraiment très grave pour quelqu'un qui voulait faire du web. Je suis pas contre l'idée de... Enfin, j'étais pas motivé avant avec cette idée de devoir ajouter un outil pour compiler vers quelque chose et que ce soit utilisable ensuite. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis un peu revenu. Parce qu'effectivement, je pense que dans certains cas, TypeScript, ça peut aider. Ça peut aider pour la collaboration à plusieurs, pour pouvoir décrire son type, pour vraiment savoir est-ce que ça correspond, enfin, un résultat d'API, il est structuré comment, plutôt que de devoir parcourir le code et comprendre où sont les clés qui sont utilisées, ce genre de choses-là. Donc ça peut permettre d'ajouter un peu de documentation supplémentaire et de la vérification pour éviter de faire trop de bêtises. Voilà. Et donc dans l'outillage, il faut forcément que ça se passe dans l'éditeur, dans l'IDE, dans l'éditeur de texte avec l'outillage qui va avec. Et donc pour ça, il faut que ce soit performant. Et là, je reviens à ce que je disais au tout début, TypeScript qui va être réécrit dans un nouveau langage pour être plus performant. Ils annoncent une performance qui sera 10 fois supérieure à le TypeScript d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que dans les éditeurs, on écrit quelque chose, il faut toujours attendre un moment, même si c'est bref, pour que les choses soient soulignées en rouge quand il y a des erreurs ou pas quand il n'y a pas d'erreur. Et ce temps peut être un peu frustrant si quand on est dans un gros projet ou dans un fichier un peu conséquent, parce que ça arrive quand même, même si on essaie de découper en général. Et cette lenteur, elle peut être un peu frustrante. Et quand on construit son projet, de devoir un peu attendre ce temps de vérification des types. Ça peut être un peu frustrant, quoi. Ça rajoute un petit peu de temps aussi dans les processus de déploiement, parce qu'en général, quand on a notre code, on lance les tests et les vérifications des types régulièrement, mais quand on construit le projet, il y a souvent cette petite étape de revérification des types pour que ça puisse être construit. Et donc ça rajoute aussi quelques secondes à la construction du projet. Une grande faiblesse de TypeScript, c'est le fait que... Alors c'est lié au fait que ce soit pas un standard, mais c'est le fait que ça ne peut fonctionner que si tout l'écosystème est écrit en TypeScript. Parce qu'on peut écrire son code en TypeScript, mais les choses qu'on va utiliser, si elles ne sont pas écrites en TypeScript, ça veut dire qu'il faut en plus ajouter les types, parce qu'ils sont, ils sont pas toujours définis, ils sont pas toujours fournis avec la librairie en question, la dépendance en question. Souvent, ce sont aussi des choses qui sont écrites par des personnes tierces sur un dépôt à part du projet principal. le Definitely Type. Et moi, j'ai toujours cette peur quand je mets à jour soit une librairie, soit la définition des types, que ça ne corresponde pas. Et c'est très très dur, je trouve, de pouvoir suivre les numéros de version entre la librairie, les types. Enfin, ça colle jamais vraiment. Et donc, ça rend le travail un peu incertain. On sait que le travail avec des dépendances, ça peut amener des problèmes de sécurité ou à des erreurs. Et le fait d'avoir des définitions de type qui soient décorrélées du projet et d'avoir des difficultés de savoir quelle version correspond à quelle version, etc., ça peut amener à des gros problèmes. Et côté serveur, en fait, il y a Node.js qui évolue beaucoup pour essayer de se rapprocher, de se marcher du TypeScript, déjà en permettant de supprimer les définitions de type. Mais si on regarde à quoi ça ressemble, en fait, ça efface les définitions de type. Donc il y a plein de choses de TypeScript qu'on ne peut pas utiliser. Par exemple, les énums, bah, en Node, je pense que c'est compliqué, quoi. On va se faire jeter parce que c'est quelque chose qui n'existe pas en JavaScript. En fait, si on veut faire du TypeScript en Node avec les versions récentes qui suppriment juste les définitions de type, bah, il faut juste définir des types. Et voilà. Donc il y a plein de choses pour lesquelles on va être un peu limité dans l'utilisation de TypeScript pour faire du Node. Et c'est là où je reviens à quelque chose dont j'ai déjà parlé dans Badidon, le dernier épisode, sur les résolutions. C'est que moi, j'ai envie de faire du Deno, car Deno permet d'écrire directement du TypeScript. Donc on n'a pas cette étape de il faut que je lance mon compiler et ensuite il faut que je lance mon node sur ce dossier dist ou je sais pas quoi, où il y a mon code qui a été converti. Aujourd'hui, je pense que Deno, avec la version 2, qui a changé beaucoup de choses, permet de faire du TypeScript côté serveur de la bonne façon, parce que Node n'est pas encore prêt, ou alors il faut faire l'étape de compilation, et ça c'est juste l'horreur, quoi. D'ailleurs, l'étape de compilation côté front, c'est l'horreur aussi de manière générale. Il faut vraiment faire confiance aux outils et aux frameworks qu'on utilise pour avoir cette configuration un peu magique qui fonctionne direct, quoi. Parce qu'on n'a pas vraiment envie de configurer TypeScript, c'est un peu compliqué, quoi. Un truc qui est intéressant dans cette décision de réécrire TypeScript en Go, donc qui est le langage qui a été choisi, bah c'est que ça a été fait en Go. Il y a un peu cette blague de toute la Terre doit être réécrite en Rust. Et je mettrai le lien aussi vers un podcast de syntax.fm où il y a Anders, le créateur, là, qui est venu parler de pourquoi il a choisi Go. Je trouvais que c'était intéressant. Donc il y avait des histoires de courbes d'apprentissage aussi. Pour ce genre d'outils, et ça c'est très intéressant, pour ce genre d'outils, avoir un ramasse-miettes, un garbage collector, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Pour des choses plus bas niveau, peut-être que Rust, effectivement, c'est très bien, mais pour ce genre d'outils, eux, ils ont considéré que le garbage collector, c'était quelque chose qui fonctionne bien. Et donc le choix de Go était intéressant. Et ce qui est rigolo, c'est j'ai vu ça dans un épisode de Fireship qui fait des vidéos assez rigolotes sur tout ce qui est technologique. C'est une réécriture depuis le début, mais ils sont vraiment dans la conversion du code TypeScript existant vers du code Go. Ils n'ont pas cherché à tout refaire depuis le début en Go et à tout réinventer. Donc normalement, quand c'est fini, ça devrait fonctionner complètement pareil. Ça veut dire que les messages d'erreur vont être certainement aussi dégueulasses et ça va toujours être compliqué de comprendre ce qui se passe avec TypeScript. La courbe d'apprentissage des premières bases de TypeScript, elle est plutôt cool. Mettre des types un peu basiques ou créer des types, voire des interfaces. Moi, je suis plus dans la création des types que la création d'interfaces en général. C'est pas, c'est ce côté interface, ça me rappelle trop Java. Qui est un langage avec lequel j'ai pas trop d'affinité. Je trouve que la JVM est très bien, mais je trouve que le langage Java lui-même est pas celui qui est le plus intéressant sur la JVM. Désolé pour cette petite parenthèse. Mais ouais, ce côté interface en TypeScript, ça me rappelle trop de souvenirs pas forcément glorieux. Par contre, créer des types, je trouve que c'est plus proche de vraiment ce qu'on voudrait faire dans le typage, quoi. Il y a aussi, c'est une question que je pose, demande souvent en entretien, C'est quoi les types utilitaires de TypeScript que les gens aiment bien utiliser? Je pense à Record, par exemple, c'est un truc un peu basique que j'utilise souvent. Le pic, exclude, etc. Il y a ce genre de petites choses qui donnent un peu de bonus dans l'utilisation de base où on est à créer des types dans TypeScript. Après, on peut aller aussi vers les choses génériques où là on peut se perdre un peu. Il y a des gens qui font des trucs complètement dingues en TypeScript et vers lesquels je ne veux pas aller et que je veux pas vraiment lire. Je pense à ce monsieur récemment qui a Doom qui tourne avec des types TypeScript. C'est complètement fou. Il y a des gens qui sont très très typage et qui font des choses très compliquées et qui pensent que ça suffit pour ne pas avoir à tester le code. Il y a mon Romino qui m'avait raconté une anecdote de lui il a trouvé un test qui est rouge alors que tous les types sont bons et il a profité d'un moment où il pouvait écrire sur la branche principale pour ajouter ce test qui fait que la tuyauterie de vérification du code, la CI, comme on dit, est passé à rouge. Et il dit, bah voilà, maintenant tu fais que des types. Je t'ai mis un test qui passe pas, tu corriges. Et je trouvais que c'était intéressant, cette petite. Nous, au boulot, on fait du TypeScript. Donc, j'ai des collègues qui viennent de différents mondes, du monde Java. Moi aussi, j'ai un historique Java, du monde JavaScript, du monde design. Et TypeScript, même s'il y a une petite marche, je pense que c'est quelque chose qui nous aide quand même à mieux communiquer, à mieux comprendre ce que les uns et les autres font, parce qu'on ne travaille pas tous sur les mêmes projets, même si des fois on se croise. Et voilà. Donc, un peu comme dans mon épisode sur Tailwind, est-ce qu'il faut en faire ou pas, pour finir? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Malheureusement, les alternatives sont un peu trop, ne sont pas assez poussée ou pas assez présente pour être utilisée. Je n'ai pas envie que TypeScript arrive directement dans le navigateur, mais je crois que c'est un outil qui peut être, malgré les petits problèmes pour moi, hein, dont j'ai parlé précédemment, je crois que c'est un outil qui peut quand même être bénéfique si on ne perd pas trop de temps à creuser dans la config, parce que c'est assez horrible de passer son temps à ça, quoi. Donc il faut que ça fonctionne avec son outillage, par exemple un framework web qui embarque le truc, ou Deno qui permet de faire du TypeScript directement. Mais perdre du temps dans du Node à vouloir faire du TypeScript et tout, ça c'est, je trouve que c'est vraiment beaucoup de temps qui peut être perdu plutôt qu'à faire les choses et je préfère qu'on fasse les choses. Voilà. Dites-moi si vous utilisez TypeScript ou pas. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des petits mots doux à fullstack@zig.fr, fullstack comme fullstack sans tiret, @sieg.fr. Sur ce, je vous fais des gros bisous, codez bien, à bientôt.